Il est 14h04, c'est l'heure de retrouver la tête au carré de Mathieu Vidard. Bonjour Mathieu.
Bonjour Angélique, merci beaucoup. Et c'est bien sûr vers Chris que vont toutes nos pensées aujourd'hui. Toute la radio est bien sûr sonnée cet après-midi après l'annonce de sa disparition. Donc on pense bien sûr à tous ses proches qui l'ont accompagné. Et puis je voudrais également adresser des pensées très chaleureuses à ses amis et collaboratrices qui ont travaillé avec elle pendant de nombreuses années ici à France Inter et qui nous ont tenus régulièrement au courant de son état de santé. Claude Gudin et Catherine Vidal, vous êtes les invités de l'émission. On va parler de pataphysique avec vous dans un instant. Vous avez eu l'occasion de croiser Chris à plusieurs reprises, Catherine Vidal.
Oui, c'est bien sûr une très très triste nouvelle. J'ai rencontré Chris à de nombreuses reprises et j'ai surtout un souvenir très très chaleureux. Il y a une dizaine d'années, à une époque où avec Marie-Bourdille Monchicourt, il y avait ce projet de démarrer pour la première fois des Barres des Sciences. Et on se rôdait, si j'ose dire, dans un lieu mythique qui s'appelle la Vieille Grille, dans le 5e arrondissement. Et on a passé des soirées extraordinaires ensemble. Et Chris était vraiment rayonnante à cette époque-là.
Et une passionnée de science aussi. Elle invitait beaucoup de scientifiques à son micro. Et vous me disiez, Claude Gudin, on s'est raté sur le poil avec Chris.
Oui, oui, on avait fait une émission sur la botanique, enfin sur la pata-botanique plus exactement, avec Marie-Odile Monchicourt et elle. On avait écumé tous les squares parisiens, c'était très drôle. Et puis, on avait un projet sur le poil qui, malheureusement, devra se traiter ailleurs. Mais peut-être que, comme en pataphysique, on fait simplement le geste de disparaître, on se retrouvera très certainement ailleurs pour parler du poil.
L'attention des auditeurs curieux de connaître l'évolution des sciences modernes.
Toute ma vie, j'ai couru envers un idéal qui était de comprendre la science. Je me suis bien amusé.
La pure connaissance scientifique.
La tête. Le très gros problème qu'on a sur les médias, c'est que le temps de parole n'est pas suffisant pour exprimer la pensée.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter.
Température 37,6.
Bonjour à tous, bienvenue, vous êtes bien dans la tête au carré. Violaine Ballet signe la réalisation de l'émission dont voici tout de suite le sommaire. Et vous l'avez compris, nous allons parler de pataphysique. Vous avez certainement entendu parler de cette discipline étrange, obscure, qui est née à la fin du 19e et qui est toujours pratiquée aujourd'hui. La preuve, la Cité des Sciences à Paris organise dimanche prochain un colloque de pataphysiciens sur le thème de la pataphysique et la science. Et nous avons décidé d'en savoir plus sur cette société très secrète en invitant dans la tête au carré trois pataphysiciens qui vont nous éclairer sur les us et coutumes de la pataphysique. Catherine Vidal, Claude Gudin et Thierry Foulque. Bonjour.
Bonjour.
Alors Catherine Vidal, vous êtes une très sérieuse neurobiologiste puisque vous êtes directrice de recherche à l'Institut Pasteur, mais vous êtes également une des très rares pataphysiciennes.
Oui, elles sont rares.
Elles sont très très rares, on va y revenir.
Là, il en faut plus.
Quel est votre titre au sein du collège? Je crois d'ailleurs que vous venez de l'apprendre.
Oui, je viens de l'apprendre parce que c'est complexe, l'organisation de la pataphysique. Il y a une hiérarchie absolument incontournable et donc moi je suis auditrice amphithéote.
Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle.
Oui,
et à vos côtés se trouve votre maître Thierry Foulque. Vous êtes provéditeur, éditeur général du Collège de Pataphysique. À quoi correspond ce titre étrange dans la hiérarchie pataphysicienne?
Bien, c'est très simple. Les provéditeurs sont ceux qui pourvoient à toutes choses, selon une nomenclature qui remonte à l'ancienne République de Venise, mais que nous avons acclimatée. Éditeur, le terme est en français commun et général, c'est-à-dire que parmi les provéditeurs, il y en a qui ont le rang de général et d'autres qui sont simples provéditeurs. Les provéditeurs généraux étant susceptibles de remplacer sa magnificence, le vice-curateur, si sa magnificence en décide ainsi, bien entendu. Le remplacement pourra être d'une minute, d'une seconde ou éventuellement plus selon les circonstances.
Et puis Claude Gudin, vous êtes chercheur en physiologie végétale. On vous avait reçu récemment pour parler justement de l'histoire naturelle du poil. Vous êtes essayiste, pataphysicien. Alors vous êtes régent de bathybiologie spéculative.
Oui.
Qu'est-ce que c'est exactement?
La bathybiologie spéculative, c'est ce qu'on invente à chaque instant. Ça emprunte au docteur Bathybius.
Oui.
Qui est un éminent docteur qui est dans l'œuvre d'Alfred Jarry, dans le Surmal, très exactement, ce qui me convient assez bien. La bathybiologie dérive donc directement des prouesses de Bathus.
De Batibius.
De Batibius, pardon. Et spéculative, bah, comme dans le docteur Faustus qui invente la spéculatoire.
Alors avec vous, on va définir ce qu'est justement l'esprit de la pataphysique. Il y a déjà des questions des auditeurs. Catherine Guérande se demande si la pataphysique, c'est la physique de la patate. Donc vous répondrez dans quelques instants. Et puis nous entendrons plusieurs documents sélectionnés par Irène Menahem et qui illustrent les figures et les grandes heures de votre mouvement qui se définit comme celui des solutions imaginaires. Chantal de Montagny voilà. A préparé avec Lucie Sarfati le dossier pataphysicien de l'émission. Et vous pouvez donc nous rejoindre en direct avec vos courriels sur franceinter.com.
Alors,
revue de presse.
Tu peux envoyer la revue de presse
dans la tête au carré.
Dans les pages sciences du Figaro, Yves Miseret nous parle aujourd'hui de paléoépidémiologie, puisque de nouvelles découvertes prouvent que les maladies cardiovasculaires existaient déjà dans l'Égypte ancienne. Contrairement à ce qu'affirme un dogme médical bien établi, ce type de maladie ne serait pas exclusivement lié au mode de vie moderne, mais existerait depuis la plus haute antiquité. C'est ce qu'a révélé l'étude au scanner de 20 momies vieilles de 3500 ans, conservées au musée des antiquités égyptiennes du Caire. 16 de ces personnes momifiées avaient des artères aussi encrassées que nos contemporains qui mangent trop de graisse, fument, boivent de l'alcool et ne font pas d'exercice physique. Les maladies cardiovasculaires touchaient donc une forte proportion des hautes couches de la société, car comme le rappelle le journaliste du Figaro, seuls les pharaons et leurs proches étaient embaumés. L'article précise néanmoins que l'information n'est pas entièrement nouvelle, car des dissections de momies et des analyses au microscope avaient déjà révélé par le passé des traces d'artérosclérose sur des restes de momies. La nouveauté, c'est l'utilisation de l'imagerie médicale, une technique non destructive qui permet d'examiner plusieurs corps de manière très fine et rapide. Et le bilan de santé cardiovasculaire de ces momies vieilles de plus de 3500 ans n'est pas brillant. L'équipe de chercheurs américains pilotée par Gregory Thomas a découvert que sur les 16 qui avaient encore des artères identifiables après le processus de momification, 9 d'entre elles présentaient une calcification coronarienne. En analysant les os des momies, les chercheurs ont également estimé l'âge auquel ces personnes sont mortes. Ils ont ainsi pu montrer que les pathologies cardiovasculaires étaient plus fréquentes en fonction de l'âge et qu'elles touchaient les femmes aussi bien que les hommes. Dans Le Point, Frédéric Lévineau et Gwendoline Dos Santos nous alertent sur l'industrie de l'huile de palme qui menace les forêts de Bornéo et tout le sud-est asiatique. Chaque année, 2 millions d'hectares de forêts sont en effet coupés pour planter des palmiers. Afin de produire cette huile qui s'est insinuée dans la composition de milliers de produits alimentaires, d'hygiène et de cosmétiques, les industriels apprécient son coût peu élevé et les Français en consomment des litres sans s'en douter à travers le savon de Marseille, les viennoiseries, le maquillage, le poisson pané, le chocolat ou les chips. Mais depuis quelques semaines, de nombreuses ONG telles que Greenpeace, le WWF et Survival redoublent d'efforts pour dénoncer les dégâts causés par cette industrie. Outre le fait que l'huile de palme soit très riche en acides gras saturés qui augmente le mauvais cholestérol chez les consommateurs, les plantations de palmiers détruisent des pans entiers de forêts tropicales, exterminent la biodiversité, condamnent les indigènes à l'exil et accélèrent le réchauffement terrestre. Selon les statistiques de la FAO, la forêt indonésienne a fondu de moitié depuis 1950, alors que les plantations de palmiers ont triplé de surface entre 1995 et 2005. Le porte-parole français de Greenpeace, Sylvain Trottier, explique que cette déforestation est la plus rapide du monde et qu'elle fait de l'Indonésie le troisième émetteur de gaz à effet de serre derrière les États-Unis et la Chine. Les écologistes ont néanmoins du mal à réagir face à une production annuelle de 45 millions de tonnes qui place l'huile de palme en tête des huiles végétales. Sous les coups de boutoir des associations, certains acteurs de l'huile de palme se sont réunis en 2004 en proposant l'adoption du label CPO garantissant une huile conforme au développement durable. Le problème, c'est que les critères écologiques et éthiques définissant ce label ne prévoient pas l'arrêt de la déforestation. 80 ONG viennent d'ailleurs de publier une lettre ouverte pour dénoncer l'escroquerie. Pour Greenpeace, la solution repose donc sur les épaules du consommateur occidental qui devrait renoncer à tous les produits contenant l'huile de palme afin de lutter contre la déforestation et ses terribles conséquences. En bref, dans l'Express, une nouvelle très étonnante nous apprend que des biologistes américains ont créé en laboratoire un pénis artificiel qu'ils ont greffé avec succès à un lapin castré. Ce pénis artificiel a été créé à partir de cellules prélevées sur du tissu musculaire et assemblées sur un échafaudage de matériaux biocompatibles. Grâce à ces opérations, l'heureux animal a non seulement retrouvé sa virilité, mais il a également réussi à procréer avec son nouveau membre. Et puis enfin, on termine avec la fête de la science. À cette occasion, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche lance un nouveau prix intitulé « Le goût des sciences ». Ce prix s'attachera à récompenser des initiatives de vulgarisation scientifique qui réussissent à communiquer à un large public le goût et l'intérêt pour la science. Trois catégories seront distinguées par ce prix. Un livre généraliste de vulgarisation s'adressant à un public non spécialiste du sujet. Un produit culturel ayant permis au jeune public de se familiariser avec les questions scientifiques. Et enfin, l'initiative de communication d'une équipe de scientifiques ayant trouvé des moyens originaux et efficaces de diffuser à un large public des travaux de recherche individuels ou collectifs. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Valérie Pécresse, remettra les prix en clôture de la fête de la science ce samedi au musée du Quai Branly.
Sans escalier, j'ai grimpé à l'étage. La vie, un livre dont il faut tourner les pages. Les cours, c'était pas cubique. Un QI élevé n'explique pas les bulletins d'un cancer chronique. J'ai arrêté l'école avant de la quitter. Hélas, en dessous de mes capacités, les plans qu'ils avaient pour nous, je les ai déjoués. T'as fait nous fait chier au risque d'échouer. De toute façon, on va pas se plaindre, nos parents se sont saignés. Au sommet, on sera pas plein, car on se fout d'être conseillé. Mon daron m'avait dit qu'existe et c'est
tirer des traits, vivre les sacrifices de si près. Je sais à quoi tu sens ton secret. À notre âge, j'ai déjà les traits tirés. À force de tirer des traits,
en vrai, les femmes n'aiment vraiment que leurs enfants. Moins tu le comprends, plus tu te morfonds. Tous les bons morflés, mes nuits blanches d'un divorce de Morphée. Une vie montagneuse, des virages, des pics, des chutes et des mirages. Radeau cassé, on part à la nage du rivage. Garçon, en une décennie j'en ai vu défiler. Trop de frères sont difficiles à tirer. Je t'aurais prêté ma jambe, mes mestres aux pieds. Je t'ai donné la main, tu l'as escroqué. Atteindre l'âge des blessures sans cocard. Transmission de savoir se vider pour que d'autres puissent avoir. Pouvoir pardonner, j'ai tout donné. Mais les gens ne savent pas recevoir.
Tirer des traits, vivre les sacrifices, je suis prêt. Quoi tu sens en secret, à notre âge j'ai déjà les traits tirés, à force de tirer les traits, vivre les sacrifices aussi près, je sais à quoi tu sens en secret, à notre âge j'ai déjà les traits tirés, à force de.
Cinq disques de traits tirés, un million. Autant de larmes tracées entre les lignes, mon métier. Les textes durs mais polis, c'est la réponse lors des contrôles de police. Elles viennent de l'univers, mes phrases mises bout à bout font le tour de la terre. Les traits, c'est comme les cartes, le pire est tirer les mauvaises. Que tu le souhaites ou pas, tu vas tirer un trait, tirer deux traits, ça fait très mal mais... La vie c'est
tirer des traits, vivre les sacrifices si près. Je sais à quoi tu songes en secret. À notre âge j'ai déjà les traits tirés. À force de tirer des traits, vivre les sacrifices si près. Je sais à quoi tu songes en secret. À notre âge j'ai déjà les traits tirés. À force de.
Extrait de l'album L'Arme de paix qui est sorti avec France Inter, en extrait tiré des traits Oxmo Puccino.
Ladies and gentlemen.
La tête au carré.
C'est officiel, ça repartit.
À 14h sur France Inter.
Si ça peut donner effectivement quelque chose, pourquoi pas.
Si vous voulez qu'on donne... Un autre résumé, enfin un autre principe, c'est l'intérêt que portent les pataphysiciens à l'exception plutôt qu'au cas général. Vous savez que Jarry considère les lois générales de la physique comme un ensemble d'exceptions non exceptionnelles et par conséquent sans aucun intérêt, l'exception exceptionnelle seule ayant un intérêt. Vous savez d'ailleurs que, puisque selon une autre formule, la pataphysique est la science, vous savez d'ailleurs qu'en science, il n'y a guère que l'exception qui fasse avancer la dite science. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les exemples de Fleming, de Pasteur et de tous ces illustres savants pour que vous constatiez que la majeure partie...
Toute découverte se fait par hasard.
Toute découverte se fait non seulement par hasard...
C'est un faux pas.
C'est pas un faux pas, c'est le moment où l'observateur remarque une anomalie. C'est l'anomalie qui fait découvrir la découverte, si l'on peut employer ce pléonasme.
Et c'est la voix de Boris Vian que nous venons d'entendre, extrait d'une émission de France 3 Nationale en 1959 qui avait pour thème les cahiers du collège de pataphysique. Et donc c'est le thème de La Tête au Carré avec mes trois invités, pataphysicien Catherine Vidal, membre du collège de pataphysique, Thierry Foulque, provediteur éditeur général du collège de pataphysique, et Claude Gudin, régent de bathybiologie spéculative. Alors Boris Vian définit l'exception comme l'un des principes fondamentaux de la pataphysique. Alors j'aimerais bien sûr que vous puissiez nous expliquer ce qu'il faut comprendre derrière ce terme de pataphysique. D'abord, est-ce qu'on parle d'une science, vraiment ?
C'est pas une science, c'est pas une science, c'est la science.
La science, dites donc, c'est pas rien, ça.
Eh bien, c'est écrit dans le Faustrol. Alors, soit vous lisez le Faustrol et puis vous en faites votre chair, mais soit vous ne le lisez pas, alors vous pouvez penser autrement. Mais pour nous autres qui lisons le Faustrol... Les gestes et opinions du docteur Faustrol, pataphysicien, qui raconte les gestes, les opinions, les écrits, même la mort. La naissance à l'âge de 63 ans et la mort à l'âge de 63 ans également du docteur Faustrol. Nous autres, nous adhérons à ces écrits et la définition de la science. La pataphysique est la science des solutions imaginaires qui accorde symboliquement au linéament les propriétés des objets décrits par leur virtualité. Ce qui est résumé à la fin du livre, la pataphysique est la science, trois petits points.
Le Faustrol, c'est quoi exactement, Claude Gudin ? C'est la Bible du pataphysicien ?
C'est le dernier livre, en fait, d'Alfred Jarry, qui a été publié d'ailleurs à titre posthume, hein, si ma mémoire est bonne, et qui décrit... finalement, les bases de la pataphysique, hein, c'est là qu'on trouve absolument tout ce qui est important de savoir, y compris les structures du collège. Alors, je crois que les structures du collège, on les trouve plutôt, Thierry va me corriger si je me trompe, mais dans l'almanach du Père Ubu.
Dans l'almanach du Père Ubu, on trouve... les statuts de l'ordre de la Grande Gidouille, fondés par le docteur Faustrol, bien entendu.
D'accord. Non, il ne faut pas mélanger. Hein.
C'est non, mais je vois que c'est très sérieux, effectivement. Oui.
Si on veut devenir un vrai pataphysicien, il est important de s'imprégner.
Oui, alors il y a des règles, effectivement, qui sont extrêmement précises. On évoquait cette hiérarchie tout à l'heure avec vous. On va y revenir dans un instant. D'abord, j'aimerais que vous donniez une réponse à cette question donc, de Catherine à Guérande sur la pataphysique. Et Catherine demandait, donc je le rappelle, si c'était la physique de la patate. Alors, qui veut répondre, Thierry Foulque ?
Il y a un élément immédiat, c'est que ça n'est pas la physique de la patate, mais c'est une physique de la patate, entre autres. Et si vous venez dimanche prochain à la Cité des Sciences, vous verrez un de nos amis, un très éminent savant, qui va nous faire une allocution sur la cardiobotanique, et où vous verrez des patates, le sacré Corazon en forme de patate, ouais, qu'il a trouvé dans son jardin.
Donc ce sera dimanche après-midi, hein, à la Cité des Sciences, avec le colloque qui est ouvert au public évidemment.
D'où l'expression « en avoir gros sur la patate ».
Voilà. Certainement. Catherine Vidal, donc je le disais, vous êtes neurobiologiste, vous travaillez dans la recherche fondamentale, le cerveau est votre organe de prédilection, les rats sont vos meilleurs amis.
Et les souris.
Depuis combien de temps est-ce que vous êtes entrée comme membre du collège de pataphysique ?
Depuis 5 ans.
5 ans, mais qu'est-ce qui vous a intéressé, vous, dans cette drôle d'aventure ?
J'ai d'abord été séduite par mon voisin, Claude Gudin, parce que manifestement, pour faire rentrer des nouveaux membres, il faut quand même un pouvoir de séduction. Et là, évidemment, dès qu'il a commencé à me parler de botanique, moi qui suis dans l'animal, j'ai cédé à ses charmes. Et puis, disons que j'étais aussi sensibilisée parce que j'ai eu cette grande chance de connaître personnellement Georges Perec, qui faisait partie du collège de pataphysique.
Et tu étais son chauffeur.
Oui, j'étais. Je travaillais dans le même laboratoire à l'époque que Georges Perec, il avait un poste de technicien au CNRS, à Gif-sur-Yvette. En l'occurrence, il était bibliothécaire qui était à la tête du laboratoire. Et il passait ses journées à transporter des livres et à remplir des fiches bibliographiques. On voit bien son intérêt au classement systématique tel qu'on peut le retrouver dans ses livres. Et souvent, comme on habitait pas très loin, je la ramenais en voiture et j'avais des conversations. J'étais un peu jeune à l'époque, donc je ne pouvais pas prendre toute la mesure de l'importance d'avoir dans ma voiture Georges Perec régulièrement. Oui. Mais c'est un souvenir ému que je garde.
Thierry Foulque.
Georges Perec, à mes yeux, a l'immense qualité d'avoir non pas défini la pataphysique, car Jarry s'y était déjà employé, mais comme elle est indéfinissable, donc Jarry avait su le faire, parce que évidemment il faisait les choses impossibles. Mais Georges Perec avait tourné la difficulté en la résumant dans un apologue que je me fais faire un plaisir de vous lire, puisque on parle de Perec. Perec racontait à qui voulait savoir ce que c'est que la pataphysique. Alors il disait, voilà, j'ai un frère. Et il aime le fromage. Ça, c'est de la physique. Si j'ai un frère, alors il aime le fromage. Ça, c'est de la métaphysique. Je n'ai pas de frère et il aime le fromage. Ça, c'est de la pataphysique.
Voilà, c'est une définition possible, effectivement. Alors, il y a un auditeur du Luxembourg qui s'appelle French Frog, qui envisage de reprendre ses études et qui serait très intéressé par un master de pataphysique. Le problème étant de savoir de quel UFR il dépendra. Lettres et sciences humaines, sciences, droit. Est-ce que vous pouvez lui donner des indications pour sa voie pataphysicienne?
Tout est bon.
Tout est bon.
Tout est bon. Nous n'avons aucune espèce de préjugé. Il y a de la pataphysique partout. Ce monde n'est d'ailleurs pas fait d'autre chose.
Oui.
Et donc, la pataphysique juridique, je peux vous dire que ça y va.
Oui.
Mais dans les sciences politiques, ça va aussi bien. La littérature, n'en parlons pas. Les beaux-arts.
Bon, ah ben justement, c'est Raphaël qui nous dit s'il existe aussi la patapolitique, la patasociologie, la pataéconomie. Donc, apparemment,
vous êtes d'accord avec tout ça.
Hein. Catherine Vidal, vous qui avez beaucoup travaillé sur la question des différences du cerveau selon les sexes, et vous avez surtout expliqué pourquoi ces différences sont acquises et non innées, vous ne vous sentez pas un petit peu seule en tant que femme au sein du collège de pataphysique?
Si. J'aime bien mes collègues masculins, bien évidemment, mais effectivement, la gente féminine est vraiment sous-représentée dans le collège de pataphysique et j'espère user de mon influence pour
faire venir
quelques
pataphysiciennes.
Oui. Oui, absolument.
C'est pas un peu, misogyne, la pataphysique? Quand on observe son histoire, effectivement, les femmes ne sont pas très nombreuses.
C'est un peu inexact de dire ça, car au fond, la première provéditrice générale du collège, Mélanie Le Plumet, était une dame, comme son prénom l'indique.
Oui. Et depuis?
Et depuis
Mélanie?
Nous comptons Amélie Temple-Nul, qui fut une régente éminente et une provéditrice. Nous comptons... évidemment, Ursula Vian-Kubler, qui est régente d'orchestique. Françoise Gillot, qui est régente de Pessilité. Il y a eu plusieurs régentes éminentes qui ont marqué l'histoire du collège, qui ont donné des cours, qui ont publié des articles. Alors, on peut dire que ça n'est pas assez. Je suis d'accord. Personnellement, je rêverais d'être entouré d'une cour de régentes, n'est-ce pas?
On va écouter Henri Salvador, un sketch avec Boris Vian. Henri Salvador demandant à être initié à la pataphysique.
Monsieur !
Hein ?
Explications.
Des explications sur quoi ?
La science.
La science de quoi ?
La pataphysique.
Vous voulez savoir ce qu'est la pataphysique ?
Oui.
Et pourquoi ?
Eh bien, pour m'instruire.
Pour vous instruire. Mais quel usage voulez-vous faire de cette instruction?
Quel usage je veux en faire?
Oui.
Eh bien, aucun, absolument aucun usage.
Vous voulez, sans raison, vous instruire en pataphysique?
Vous l'avez dit.
Mais vous êtes déjà pataphysicien.
Ah.
Ce désir le prouve, et ce motif aussi.
Mais quel motif?
Mais l'absence de motif.
Comment ça, ça prouve que je...
Exactement, que vous êtes pataphysicien.
Alors, en somme, c'est à moi de vous expliquer ce que c'est, quoi.
Oui.
Ah ben, ne comptez pas sur moi, alors.
Mais voyons, faites un effort.
Ben, c'est contraire à mes principes.
Enfin, c'est pourtant bien vous l'auteur de cet ouvrage, tenez.
Opus pataphysicum. Testament de sa feu magnificence, le docteur I.L. Sandomir, de son vivant vice-curateur fondateur du collège de pataphysique. Allez, vous voyez bien qu'il est mort, s'il plaît.
C'est une mort apparente.
Ah, parce qu'on peut mourir de mort apparente?
Mais naturellement, rien de plus courant.
Ah, en tout cas, ce n'est pas moi qui ai écrit ce truc-là.
Mais c'est dommage.
Claude Gudin, on peut être pataphysicien sans le savoir?
Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, la grande majorité des gens sont pataphysiciens. Mmh. Il y a deux sortes de gens sur Terre, les pataphysiciens globaux et puis ceux qui sont au collège et qui le savent.
Nous avons un courriel de Maître S d'école, je vous lis, hein, à Tours, et qui nous dit « En somme, le pataphysicien pompe-t-il à la manière des Shadock à contresens de l'univers et des idées arrêtées ? Il demande s'il existe de la pataphysique hors de la capitale dans le reste de l'univers ?» Qui répond à cette question, voilà, Thierry Foul.
Alors là, bien entendu, par définition, le collège est universel, que dis-je ? Ubuniversel.
Oui.
Et le fait que Jarry ait été de langue française, soit né à Laval, que le collège ait été fondé rue de l'Odéon à Paris, tout ça est purement circonstanciel. Il aurait pu en aller autrement. Et nous n'avons aucun préjugé en faveur ni de la France, ni de Paris, ni de la langue française. Nous avons des membres, des pataphysiciens, en dehors de ceux qui s'ignorent pataphysiciens, mais des pataphysiciens membres du collège qui se savent et se veulent pataphysiciens. Il y en a dans le monde entier, il y en a même en Alaska, il y en a au Japon, il y en a en Argentine, où j'aurais bien pu Buenos Aires, il y en a en Chine, il y en a vraiment dans le monde entier. Donc, il n'y a aucune raison. Et je vais vous donner une avant-première, puisque dans les prochains jours, à la Cité des Sciences, nous devons remettre des diplômes de la Grande Gidouille. Et la présidente de la Cité des Sciences, Madame Claudie Aigneret, va être honorée en tant que...
Grande Gidouille aussi.
Hôte, puisqu'elle nous reçoit chez elle, dans sa maison. Donc, c'est la moindre des choses, nous l'honorons de la Grande Gidouille. Et bien entendu, tout cela est avec une arrière-pensée un peu intéressée, c'est que nous voulons absolument poursuivre les buts statutaires du collège qui sont de promouvoir la pataphysique en ce monde et dans tous les autres. Et à défaut d'être allé très loin, elle est quand même, d'entre nous, la seule qui est décollée de quelques centaines de kilomètres.
C'est vrai qu'une grande gidouille astronaute, on n'en trouve pas beaucoup quand même. Ça, c'est un titre unique,
quasiment.
C'est
le côté cosmique de la pataphysique.
Ouais. Allez, on vous retrouve dans un instant. D'autres messages arrivent sur franceinter.com pour évoquer avec vous la pataphysique. Et on parlera de ce colloque donc dimanche prochain à la Cité des Sciences. So we meet again after several years of separation, moving on, moving around. Did we spend this time chasing the other's tail? Sing, oh, whoa, 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 whoa. I can never belong to you. Oh, whoa, 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 whoa. I can never belong to you. Winter and spring, summer and fall, you're the wind surfer crossing the ocean on the boat behind. Skiffle and ride, shuffling wall, shuffling wall, you're the up tiptoe chorus line. Sing, oh, 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 oh. I can never belong to you. Oh, 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 oh. I can never belong to you.
saw through the air's a fluffy cloud falling down the rain.
Kings of Convenience avec Bob Behind sur France Inter.
Le sérieux, c'est la pataphysique. Nous autres, pataphysiciens, tout comme Zary lui-même, ne sommes point des amuseurs, des farceurs, des clowns, ainsi que de Zary le prétendait fugide. On se méprend sur le caractère de farce à l'origine et de dehors, mais l'enfance au jeu et surtout l'adolescence est imperturbable. Nous sommes donc sérieux. Et j'ajouterai, car c'est ici que tout s'éclaire, il n'y a que nous à être pleinement, totalement et surabondamment sérieux et à nous prendre authentiquement au sérieux.
Le sérieux défini par Jarry via la voix d'Henri Salvador et qu'on ne s'y trompe pas, hein, le pataphysicien est d'un naturel plutôt ombrageux et il a horreur, Thierry Foulque, qu'on le prenne pour un farfelu.
Certes, hein, certes. Néanmoins, je peux vous citer quand même un mot de Jarry qui disait « Il ne faut pas chercher à se faire comprendre du peuple souverain ». Il faut le faire rire. Mais ça ne l'empêche pas d'être très sérieux.
Oui, on l'entend à votre voix d'ailleurs. Hein. Vous revendiquez d'ailleurs une certaine mauvaise foi hein, face au consensuel intellectuel et cultureux. Hein. Ça aussi, c'est votre combat. Parce qu'il y a un côté Saint-Germain-des-Prés. Vous parliez de l'Odéon tout à l'heure sur la naissance de la pataphysique. Mais vous combattez précisément ce parisianisme. La preuve, c'est que lorsque vous avez à nouveau ouvert les portes de la pataphysique en 2000, ça s'est passé à Chartres, c'est ça ?
Ah oui, c'est circonstanciel, c'est comme la naissance de Jarry à Laval, ça n'a strictement aucun sens.
Il nous fallait une cathédrale.
Il fallait au moins
non,
ça.
Non, c'est beaucoup plus fin que ça. Notre ami Pascal Horry, qui était à l'époque élu de la municipalité de Chartres, mettait à notre disposition une collégiale. Une collégiale désinfectée, bien entendu, et je dis bien désinfectée, qui avait quand même 800 mètres carrés au sol, 7 ou 8 mètres sous les voûtes. Donc ça nous convenait pour faire une modeste exposition d'un choix de nos travaux.
Alors j'ai découvert en préparant l'émission que la pataphysique avait des origines bretonnes. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quel contexte de hasard, certainement, est née cette discipline ?
Alors,
Là encore, j'arrive.
On est toujours dans l'imaginaire. Hein. Jarry se prenait pour breton puisqu'il était né à Laval en Mayenne. Mais fonctionnellement, il se voyait breton comme ça. Et puis, il faut dire qu'il a passé une partie de sa scolarité à Rennes, au lycée de Rennes. Et là, c'est vrai, en arrivant à Rennes en 1888, il a trouvé, déjà existante, la légende du père Hébé, qui n'était pas encore le père Ubu, mais le père Hébé, qui était son professeur de physique, qui était en train de devenir la pataphysique. Félix Hébert, puisque c'était son nom, représentait pour ses élèves tout le grotesque qui est au monde. Et ses cours étaient vraiment homériques. Il recevait... Mais on en a des témoignages, hein, des rapports académiques. Il était surveillé par le contrôle de l'académie. On lui mettait des assistants pour essayer de tenir la classe. Mais même des classes de 15 élèves, il n'en venait pas à bout. Ouais. Et il recevait des pierres sur ses éprouvettes.
Ah oui, il était très chahuté. Hein,
il était terriblement chahuté. Et il faisait des moulinets avec sa baguette, qui est devenue le bâton à physique. Mmh. Et il essayait de... En plus... Il était un spécialiste de la météorologie et spécialement de la foudre en boule. Et donc, il faisait des schémas sur son tableau et il expliquait tout ça. Et les éprouvettes volaient en éclats. Et dans le chahut originel, bien sûr, la physique vulgaire se transformait en pataphysique.
Ouais. Il y a beaucoup de notions de vulgarité. Oui, il y a la physique vulgaire, il y a le calendrier vulgaire, puisque vous avez votre propre calendrier, le collège d'ailleurs de pataphysique.
Oui, mais chez nous, rien n'est vulgaire.
Oui, oui.
C'est ce qui est à l'extérieur.
C'est ce qui est à l'extérieur. Voilà, c'est pour ça que vous avez votre propre calendrier et que le collège a ouvert ses portes le 11 mai 1948, excusez-moi, le 22 Palotin 75.
Voilà, hein, de l'ère pataphysique.
Comment se calcule le calendrier pataphysicien? C'est encore sur les bases d'Alfred Jarry, a priori?
Non, il a été inventé par le collège, donc à l'époque que vous dites. Mais c'est vrai que Alfred Jarry est né le 8 septembre 1873 de l'ère commune ou de l'ère vulgaire, de l'ère chrétienne, disons. Qui est, l'ère chrétienne étant elle-même fausse à 4 ans près, hein, comme tout le monde sait. Mais dans le vrai calendrier qui a été instauré sur des bases scientifiques, il est né le premier absolu de l'an 1 de l'ère pataphysique.
Voilà, c'est ça.
Et après quoi, l'année a été divisée en 13 mois, et en 13 mois égaux. Ce qui n'est pas le cas de notre année ordinaire, qui est assez lamentablement bancale.
Égaux parce qu'il y a 28 jours plus 1, en fait,
voilà,
c'est ça.
Voilà, 28 jours plus 1, donc avec 28 jours réels plus un jour imaginaire, lequel jour imaginaire peut être réel, les années bissextiles, et dans certains cas aussi au mois de Gidouille. Et donc vous avez comme ça 377 jours pataphysiques qui équivalent strictement tous les ans à l'année solaire. 365, 366, 365, un quart. Vous voyez, l'année ordinaire est quand même pas très fiable, tandis que l'année pataphysique à la fois se cale sur elle et est toujours rigoureusement de 377 jours.
D'ailleurs, tous les vendredis sont des vendredis 13.
Absolument.
Alors, je voudrais vous lire ce message d'Alex qui nous écoute. Il dit « C'est très intéressant votre émission d'aujourd'hui, sauf que je n'ai jamais entendu parler de la pataphysique et que je ne sais toujours pas de quoi vous parler plus d'une demi-heure après le début de l'émission. Dommage que vous ne vous adressiez visiblement qu'aux initiés. C'est agaçant. » Alors, qu'est-ce que vous répondez justement à Alex, là, qui semble un petit peu perdu? Vous avez envie d'éclairer ou ce n'est pas franchement votre préoccupation?
Non, il est certainement grand, intelligent, adulte et capable de s'éclairer par lui-même. D'autant que dans notre grande générosité, nous avons quand même beaucoup publié, peut-être trop. Donc il y a non seulement les innombrables numéros des cahiers, des dossiers, des Subsidia Pataphysica.
Il y a tous les supports.
Il y a la revue trimestrielle quand même, Viridis Candela.
Julien est à Orléans, il demande comment les pataphysiciens se reconnaissent entre eux. Est-ce qu'il y a un signe de reconnaissance, de ralliement? Non, pas du tout.
Non.
Jean-Marc est à Lyon. Quelle solution nous propose la pataphysique aux deux grands problèmes de l'humanité, le réchauffement climatique et l'éclatement de la coquille de l'œuf froid dans l'eau bouillante?
Ah.
Je vous sentais un peu déçu de la première proposition, beaucoup plus heureux sur la seconde. Claude Gudin, à vous.
Est-ce que je suis autorisé à parler du desservelage climatique?
Oui, mais oui, vous
puisque
êtes tout à fait légitime.
Dans l'un de nos chantiers actuels, nous avons le desservelage dans lequel, d'ailleurs, Catherine Vidal est l'une des grandes spécialistes.
Elle va nous en parler dans un instant. Ouais.
Mais moi, j'ai traité du desservelage climatique, que je vais résumer en 30 secondes. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau de nos connexions cérébrales, il y a un acide gras particulier, polyinsaturé, qu'on appelle l'acide dodécahexanoïque, ou DHA, qui est produit essentiellement par des algues des mers froides. Et ces algues sont consommées par des poissons et des crustacés qui accumulent ces acides gras polyinsaturés qui nous sont indispensables pour finalement un bon fonctionnement du cerveau. Et malheureusement, avec le réchauffement climatique, j'ai calculé que chaque fois qu'on montait d'un degré sur la planète, on descendait notre QI d'au moins 10 points.
Ah oui, c'est embêtant. Oui.
Et on n'a pas d'autre alternative. Alors, le Collège de pataphysique a décidé de s'atteler au problème et d'essayer de pallier ce manque d'huile qu'on riche en acide gras, l'huile de foie de morue. On a déjà toute la chaîne du froid qui sert d'ailleurs à conserver les morues. On va pouvoir, grâce à ça, conserver et recycler les cervelles humaines, n'enterrons plus nos morts, ne les brûlons plus sans avoir extrait la cervelle d'abord, et ainsi on pourra lutter
contre le réchauffement climatique. Béatrice Arnac chante la chanson du desservelage, c'est un extrait sur l'air de la valse des pruneaux sur un texte d'Alfred Jarry.
Je fus pendant longtemps ouvrier ébéniste dans la rue du Champ de Mars, de la paroisse de Toussaint. Mon épouse exerçait la profession de modiste et nous n'avions jamais manqué de rien. Quand le dimanche s'annonçait sans nuages, nous exhibions nos beaux accoutrements et nous allions voir le décervelage, rue de l'Échaude, et passer un bon moment. Voyez, voyez la machine tourner, voyez, voyez la cervelle sauter, voyez, voyez l'air entier trembler. Hurrah, cornes au cul! Vive le Père Ubu!
Qui est Béatrice Arnac, Claude Gudin? Cette chanteuse, hein, qu'on vient d'entendre.
C'est une chanteuse qui, comme on vient de l'entendre, qui interprétait beaucoup de chansons un petit peu bizarres, un peu pataphysiques, comme elle a interprété certaines chansons de Boris Vian, d'ailleurs.
Oui. Elle vit encore?
Elle donne des cours d'art dramatique, oui.
D'accord. Catherine Vidal, les techniques du décervelage. Donc ça, ce sera votre thème lors de ce colloque dimanche à la Cité des Sciences. De quoi s'agit-il exactement?
Moi, en tant que pataphysicienne, j'ai un souci d'adopter précisément une attitude dialectique propre à toute pataphysique. Et ce n'est pas tellement le décervelage en tant que tel qui m'intéresse, c'est... D'une part, l'anti-décervelage, que j'appelle l'encervelage, et d'autre part, le post-décervelage. Donc, j'élargis le concept, quelque part.
Oui. Alors, l'encervelage, c'est ça?
Alors, l'encervelage...
Ça correspond à quoi?
Alors, ça, c'est une notion qui avait déjà été développée, en l'occurrence, par Georges Perec, à la grande époque. Il a écrit un article qui est internationalement connu, qui s'appelle « Démonstration expérimentale d'une organisation tomatotopique chez la cantatrice ».
Ah oui.
Alors, cet article, donc paru en 1974, est en fait un pastiche des articles scientifiques qu'il avait sous les yeux en permanence à l'époque, puisqu'il travaillait dans ce laboratoire de recherche au CNRS, et il servait donc de bibliothécaire. Donc, il, en tant que pataphysicien, il a fait... naturellement un pastiche des activités scientifiques. Et donc le thème de l'article illustre donc les effets du lancer de la tomate sur la réaction yélante de hurlement chez la soprano de l'espèce Cantatrix sopranica.
D'accord, c'est un vrai sujet d'étude, hein,
voilà. Sujet de thèse.
Oui.
Donc, et il montre très justement que le cerveau de la cantatrice,
sous l'effet du lancer de tomate, si je comprends bien,
se modifie, c'est-à-dire qu'il était le premier à mettre en évidence la plasticité cérébrale.
Ah, ça c'est votre thème.
C'est mon thème privilégié.
Hein, absolument.
Donc, je ne peux que rendre hommage à Georges Perec, et donc c'est cette notion d'encervelage qui est absolument fondamental. Et il y a aussi donc la notion de post-décervelage. Là, c'est une autre dimension. Parce que couper la tête, c'est bien, mais couper le cerveau, c'est encore plus compliqué. Parce que comment peut-on couper un organe qui a la consistance d'un fromage blanc?
Oui. Donc là, vous parlez des outils.
Des outils, et donc il y a énormément d'outils qui ont été utilisés pour couper les cerveaux, et ça en soi, c'est aussi un sujet de thèse.
Voilà, donc silex, trépan, scie, hache, décapicône.
Alors ça, c'est pour le décervelage.
Ouais.
Moi, je suis dans le post-décervelage.
Mais vous allez aborder tous ces aspects, donc dimanche, devant l'auditoire.
Ça, c'est l'ingénierie du décervelage.
Ouais. Voilà.
Alors j'en profite pour dire d'ailleurs que vous sortez une petite pomme du savoir sur la plasticité cérébrale. On en a souvent parlé avec vous dans l'émission. Courriel des auditeurs, Dominique est gardien de phare à Cordouan et il est pataphysicien depuis ses plus jeunes années. Depuis 1984, où il passait son diplôme des beaux-arts avec une machine à rater les crêpes. Et sur sa carte de visite est écrit Dominique Pérez, gardien de phare et pataphysicien. Et il dit qu'il espère faire de Cordouan un carrefour mondial de la pataphysique.
Nous ferons notre prochain colloque dans son phare.
On lui rendra visite.
Ah oui, ce serait drôle, effectivement. Monsieur Patate, par courriel, nous dit ceci. Est-ce qu'on peut considérer Jean-Claude Van Damme comme étant un pataphysicien qui s'ignore? Et est-ce qu'on pourrait, à ce titre, l'enrôler de force? Et Claude Gudin demande, mais c'est qui Jean-Claude Van Damme? Vous savez, c'est cet acteur américain qui fait du karaté. Ah ouais. Ça vous dit rien et qui fait des blagues sans arrêt.
Oui, 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 d'accord.
Non, ça n'a pas l'air de vous parler beaucoup. Thierry Foulle, que vous connaissez.
Je dois reconnaître mon ignorance, car le pataphysicien sait tout, sauf qui est Jean-Claude Van Damme.
Voilà. Patrick Vian, c'est son nom. N'oublions pas une chose fondamentale, dit-il, la pataphysique n'entreprend pas de sauver le monde.
Absolument.
Vous êtes d'accord avec ça ?
Patrick Vian est le fils de Boris Vian.
Mm-hmm. On le salue. Alexis nous écrit ceci. La pataphysique a-t-elle plus de légitimité que la main de Thierry Henry ? Vous voyez qui est Thierry Henry ou pas ?
Ah oui, oui, très bien.
Vous avez
vu
le match hier soir ?
Non, non, bien entendu. Mais je vois très bien qui est la main de Thierry Henry.
Et ça vous suffit pour répondre à cette question ?
Bien sûr.
Finalement. Merci pour vos réponses extrêmement nourries. Est-ce que nous pourrions dire, demande Laurent, que la science pifométrique est un pendant à la pataphysique ?
Ah non.
Pourquoi ?
Mais c'est extrêmement précis, la pataphysique.
Oui.
C'est d'une précision absolument extraordinaire. On va à fond dans le détail et réciproquement. Si vous voyez ce que je veux dire.
Et l'Oulipo, est-ce que c'est issu de la pataphysique, cet ouvroir de littérature potentielle dont faisait partie
Georges
Perec et Queneau ?
L'ouvroir de littérature potentielle a été créé donc par Raymond Queneau et François Le Lyonnais en 1960. Et c'est vrai qu'à l'époque, une des premières choses que Queneau a senti, car il était d'une très grande finesse, c'était que, sauf la pataphysique, un Oulipo risquait de verser dans un académisme un petit peu tristounet. Vous voyez, et parce que la fonction de l'Oulipo, c'est d'inventer des règles, des contraintes, comme ils disent, des contraintes littéraires, c'est-à-dire des contraintes formelles pour l'écriture. Et bien entendu, que fait une académie ? C'est aussi édicter des règles. Donc, Queneau avait senti ça très finement. Et il avait d'ailleurs traduit ça dans une très jolie formule au cours d'une des réunions de l'Oulipo des premières années. C'est des normes, oui, mais pas normales. Énormes. Et donc, voilà, il avait senti. Donc, et donc, dans les débuts de l'Oulipo, oui, c'était une sous-commission du collège.
On va écouter un extrait de l'émission « Bonjour, Monsieur Jarry », diffusée en 1951. André de Fouquières, homme de lettres, défenseur du prestige français, juge le célèbre merdre dans Ubu Roi d'Alfred Jarry.
Je n'aime ni la vulgarité ni la grossièreté. Je ne crois pas nécessaire d'imaginer des formules et des mots d'une excessive audace pour affirmer sa pensée. Il est des mots historiques qu'on ne saurait, à mon sens, déformer. Leur apparence grossière prend de ce fait une importance d'autant plus grande. Ce mot historique, je n'ose à peine prononcer son nom, le mot célèbre de Cambronne, appartient à l'histoire. Ce mot auquel on adjoint une lettre supplémentaire le rend déplaisant et dépourvu de sens. Il choque certainement davantage les lois de la civilité, péril et honnête. J'aime mieux la ligne droite que le labyrinthe. Parce que,
peut-être c'est...
Parce que je dis, merde, ça va, c'est un mot historique. Mais merdre, ça souligne la chose. Mais quand cette grossièreté est le fait d'écrivains de qualité, comme c'est le cas, c'est de M. Jarry, cette grossièreté est plus acceptable et donne matière à discussion. Et si M. Jarry a voulu ajouter une lettre à ce mot célèbre, il l'a certes rendu encore plus violent.
Eh oui, merdre, hein, c'est le mot inaugural du but, Thierry Foulque.
Absolument.
Ça éclate comme une bombe hein, au moment où c'est prononcé en 1896 dans Ubu Roi, donc d'Alfred Jarry. C'est un scandale à l'époque, ce merdre.
Certes. Un spectateur, je crois que c'est André Antoine, le metteur en scène, qui assistait et qui aurait répondu « Mangre !»
Et alors on dit que de ce merdre va jaillir un certain nombre de choses. On parle du dadaïsme, de mouvements très forts, et voire même de mai 68. Ça va très très loin quand même. Hein.
Oh là, il ne faut pas exagérer. Mai 68 n'est pas un mouvement très fort, c'est un épisode.
Un petit... épiphénomène selon vous.
Voilà. Non, il faut savoir que le Collège de Pataphysique a publié un numéro de sa revue avec une bande en travers qui est marquée « Numéro spécial consacré aux événements de mai
ouais. ».
Mais ce numéro spécial était en préparation depuis des années. Et c'est un recueil de poésie morale et politique.
Bub nous écoute à Lyon. Je suis futur chercheur et cela fait plaisir, dit-il, de voir des chercheurs qui décrassent l'image trop sérieuse de ce métier. Que pensent vos intervenants des Ig Nobel ? Vous connaissez les prix Ig Nobel qui sont en marge des prix Nobel.
Oui, bien entendu. Oui,
qui sont très amusants d'ailleurs, qui ont été décernés il n'y a pas très longtemps.
Oui, ben ça nous
méditons. Vous sentez proche des Ig Nobel ?
Nous méditons un dossier sur les Ig Nobel un jour. Oui.
Ouais. Et Bub demande s'il peut devenir pataphysicien même s'il rate le concours d'école doctorale. Vous l'acceptez parmi vos membres ?
Oui, absolument.
Bien. Panda nous dit dans ce courriel, la pataphysique relève peut-être davantage de la pathologie. Pathologie, oui, tant son unité et sa cohérence ont de l'importance pour la pensée humaine. Quoi qu'il en soit, cette science est patasympathique. Voilà pour ce message. Alors, le programme de dimanche, Claude Gudin, de votre côté, donc c'est la biologie, la pathabiologie ?
Moi, ce sera la pathabotanique.
Pathabotanique,
oui. Oui.
Alors, qu'est-ce que vous présentez au menu
Je vais parler de différentes choses concernant la botanique. Entre autres, peut-être, si j'ai le temps, de L'écume des jours de Boris Vian, qui est le premier grand roman botanique qui existe, puisque Chloé, qui est l'épouse de Colin, meurt parce qu'un nénuphar grossit dans ses poumons, fleurit dans ses poumons. Et bien sûr, on essaye de la soigner avec d'autres fleurs, les œillets qui en particulier sont très efficaces contre les nénuphars, ou les orchidées qui sont un peu plus chères. Et au fur et à mesure que la santé de Chloé se détériore, les murs, qui sont des murs végétaux qui fleurissent, se ratatinent, se rétrécissent, perdent leurs feuilles. Et finalement, Chloé meurt, et à la fin, on retrouve Colin, l'amoureux transi, un grand poignard à la main, au bord d'un cours d'eau. Il est devenu tueur de nénuphars.
Et de votre côté, Thierry Foulque, dimanche ?
Nous allons parler donc du décervelage, de la pathabotanique et aussi du voyage dans le temps.
Ah oui.
Car la science-fiction est un domaine immense, mais le thème du voyage dans le temps offre matière à d'admirables solutions imaginaires, comme vous pouvez l'imaginer justement. Et Jarry lui-même avait pris soin d'écrire un commentaire pratique pour la construction de la machine à explorer le temps. Car le roman de Wells venait de paraître, mais ce n'est pas le tout. Il s'était rendu compte que Wells, en fond, chante un petit peu le fonctionnement de la machine. Alors, il a fait un texte qui est encore plus imaginaire sur le fonctionnement.
Voilà, donc ce sera dimanche après-midi. Voilà. Et pour tous ceux qui souhaitent s'inscrire, la cité des sciences, cité-sciences.fr, tout ça est en lien sur La Tête au Carré à l'occasion de ce colloque. On le disait tout à l'heure, donc en 2000 a eu lieu la désoccultation du collège de pataphysique, donc c'était le retour à la vie publique, qui avait été décidé d'ailleurs il y a très longtemps.
Absolument.
La date avait été définie.
Oui, car le collège a été créé, donc, comme vous le disiez, en 1948. J'emploie le calendrier ordinaire, plus familier sans doute à vos auditeurs. Et en 1975, par décision de sa magnificence au Pache, le collège s'est occulté. Ça ne veut pas dire qu'il a cessé d'exister, ça veut dire qu'il s'est retiré de la vie publique et que les pataphysiciens ont continué à travailler, mais un peu plus entre eux, sans se manifester publiquement. Mais la décision d'occultation était désoccultation en l'an 2000. Alors, il y a eu une sous-commission qui s'est réunie pour décider, essayer de comprendre d'ailleurs si sa magnificence voulait parler de l'an 2000 de l'ère commune, que nous avons maintenant dépassé, ou si c'était l'an 2000 de l'ère pataphysique. Comme vous savez, elle a commencé en 1873. Alors, ça nous aurait remis en 3872.
Oui, c'était mieux de le faire tout de suite.
Voilà.
Et alors justement, au moment de cette résurrection de la pataphysique en 2000 dans Marianne, Yann Moix se demande à quoi peut bien servir tout ce cirque pataphysique s'il n'y a pas un côté pathétique avec ces vieux monsieur qui retrouvent des élans de potache en mettant sur pied une instance au sein de laquelle l'absurde est un mode de vie et qui s'intéresse au fond à leur maniaquerie plus ou moins misogyne, plus ou moins dérisoire, plus ou moins vaine. À quoi vous répondez ? Il termine bien quand même, il dit que c'est une science du bonheur, sans doute pas, mais une science de l'extase assurément. Alors, qu'est-ce que vous répondez à la première partie de cet article de Yann Moix ?
Je réponds que tout flot de paroles est justifié et que Yann Moix lui-même m'a envoyé il y a quelques jours un petit message électronique en évoquant Bosdenage et son adhésion au collège.
Voilà, donc ce sera dimanche. Il y sera peut-être avec vous à la Cité des Sciences pour ce colloque de la pataphysique. Merci beaucoup Catherine Vidal. Vous reviendrez très sérieusement nous parler de la plasticité cérébrale.
Hein.
On parlera
plaisir.
De votre livre qui sort aux éditions Le Pommier. Claude Gudin, Les poils sont toujours en librairie.
Oui, 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 toujours.
Chez vos éditeurs habituels.
Et en mars, on parlera d'essence, histoire naturelle d'essence.
Absolument. Merci beaucoup Thierry Foulque d'être venu également nous parler de pataphysique cet après-midi.